All right, salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les Gars de Poule. Philippe Bellefeuille et Daniel Savoie sont au rendez-vous. Comment tu vas, Phil?
Super bien, toi?
Oui, ça va super bien.
T'es rendu où, là?
Mais là, j'écoute, pour ceux qui suivent mon parcours sur Instagram, là, vous saviez que j'étais parti en moto avec comme projet d'aller au Pakistan. Mais ça a bloqué. J'ai pas été capable de rentrer en Inde. Il me manquait des papiers importants, puis j'étais pas au courant de ça. Bref, j'ai laissé ma moto au fin fond du Myanmar. Mais bon, c'est la vie.
En tout cas, ça a l'air vraiment le fun. Les stories, là, c'est le fun à suivre, puis... tu nous fais voyager. En tout cas, moi, tu le sais comment j'adore les voyages aussi. Fait que tu me permets de voyager un petit peu pendant ce temps-là. Fait que très cool.
Continue
comme ça.
Ben, c'est gentil. Puis ceux peut-être qui nous écoutent puis qui savent pas de quoi on parle, allez voir sur mon Instagram, Dan _ Savoie. Puis j'ai tout archivé mes stories finalement. C'est des petits montages là, dans la section IGTV. Donc, allez voir ça. Puis sinon, ben écoute, mon espèce de trip est terminé. Fait que ça me laisse du temps pour faire des podcasts. Parce que là, on n'avait pas fait beaucoup de ces derniers temps parce que c'était un petit peu plus difficile pour moi. Mais on en avait fait un même qui n'avait pas fonctionné parce que l'enregistrement du micro n'était pas de bonne qualité. On dira pas c'est lequel des deux parce qu'on est dans le
monde d'équipe. C'est moi, c'est moi. Je prends le blâme. C'est bon, c'est correct.
Fais attention, pas trop parler fort dans le micro, Phil, là, puis faut pas que ça pique.
Il est loin le micro, là, il est beaucoup plus loin, puis ça devrait être correct aujourd'hui.
Puis c'est passé des choses aussi depuis ce temps-là, on est quasiment à la mi-saison. 2020 s'amorce, mais les équipes vont taper le 40 matchs bientôt. Puis il y a eu une coupe d'échange aussi, il y a eu la grosse échange qu'on attendait, mais qui m'a un peu surpris parce que je pensais que ça allait arriver, mais peut-être plus au trade deadline, mais c'est arrivé plus tôt. Taylor Hall qui s'en va en Arizona pour peu finalement. Quel impact ça va avoir sur Hall et la suite de sa saison et peut-être même sur la suite de sa carrière? Qu'est-ce que tu penses des échanges pour Taylor Hall, toi, Phil?
Je pense qu'il peut aller chercher quand même au-dessus d'un point par match pour les restants des games qui restent. Là, je pense qu'il est à ce que tu disais tantôt, il était à 4 points en 6 games à date en Arizona. Là. Il y a toujours une petite période d'ajustement là, en début de quand tu changes d'équipe, tout ça, là, tes coéquipiers, mais. On s'entend que lui il va jouer des grosses minutes là-bas. L'équipe va beaucoup mieux que New Jersey. Dernière année de son contrat. D'après moi, c'est la fin de saison va être bonne pour Taylor Hall. Fait que ceux qui l'ont dans leur pool, là, je paniquerai pas. C'est le genre de joueur qui peut aller chercher beaucoup de points d'ici la fin de la saison. Puis je pense que c'est le genre de joueur, quand ça compte, il est capable de monter son jeu d'un cran aussi. Là. Fait que c'est un vrai.
Oui, c'est un vrai. Puis il y a l'effet aussi, veut pas que... Il va se magasiner un contrat cet été, puis il n'y a rien qui dit qu'il va signer avec l'Arizona. Fait qu'il va, je suis sûr quand même qu'il va vouloir terminer sur une note positive la saison, là, pour ne serait-ce que pour s'assurer d'aller chercher le jackpot.
Il va facilement avoir un 9 millions là, minimum. Là, Hall, je pense, d'après moi, là, il va tourner autour de ça.
Oui, sans doute. Tu regardes Tavares, qu'est-ce qu'il y a eu, ça valait un peu plus, je pense, mais il va aller chercher des gros chiffres, là, moi, je pense.
Pas par contre c'est bon point là, les trois contrats qui ont été donnés à Toronto là.
Oui.
Je sais pas jusqu'où c'est sûr que les agents veulent se fier à ces contrats là, mais on dirait qu'ils sont comme un peu trop élevés pour les joueurs. Tu sais, Tavares là, on s'entend, c'est un top là, mais il est payé comme un joueur il est payé mettons comme un Crosby là, tu sais, ce qui fait pas de sens là, dans le sens que il est juste en bas de McDavid dans le salaire, mais on s'entend dessus que je prendrais une coupe de joueurs avant Tavares si j'avais le choix là, après McDavid.
Mais moi,
pour l'instant. Là,
tout l'aspect salaire du hockey, il y en a qui adorent ça, analyser ça, puis parler de ça. Moi, on dirait que ça, je trouve ça un peu irrelevant en anglais, on dit, là, parce que c'est une game, c'est un concours de circonstances, faut être à bonne place au bon moment, c'est quoi le marché?
C'est comme le stock market, c'est comme la bourse, à un moment donné, c'est que ta valeur augmente seulement parce que t'es plus rare sur le marché par rapport
exactement.
À d'autres joueurs.
C'est parce que cette année-là, Tavares était sur le marché et c'était le gros nom du marché. Fait qu'il y a eu une surenchère. Ouais. La preuve, c'est qu'il a loué un hôtel et il a dit aux équipes, venez me voir. Tu sais, je veux dire, c'est, ça n'a pas de bon sens. tu comprends? Il y avait une surenchère puis le monde était prêt à payer. Tu sais, c'est comme le Carl Arzner. Tu sais, Carl Arzner, il y avait une surenchère pour Carl Arzner. Puis le Canadien il a dit, nous autres, on veut lui parce que, tu sais, mais au bout de la ligne, Carl Arzner, il mérite-tu de l'argent? Qu'il y a là, mais en même temps, le mot mérite pour moi, il fait pas de sens là parce que ces gars-là, ils ont fait des gros sacrifices toute leur vie, ils sont rendus là, puis ils ont la chance de pouvoir avoir des fois un contexte qui fait qu'ils touchent l'argent. N'importe quel être humain, là, tu dis, tu sais, mettons, moi, Phil, je te dis, hey, viens jouer dans mon équipe, je t'offre 4 millions. Ben, je te conseille de dire oui, parce qu'après ça, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais.
Je ferais pas, hey boy, je suis pas sûr que je mérite ça. Avec
ben les... non, c'est ça.
Non, je signe.
Ben oui, tu signes, puis...
Plus ça par rapport à Taylor Hall, pour revenir à Taylor Hall, c'est que, à un moment donné, ça dépend où ce qui va se ramasser, parce que si on s'entend que ça risque d'être un des gros noms pour l'été prochain. Fait que là, ça va être intéressant de voir là, où ce qui tombe pour la suite de sa carrière. Puis d'habitude, quand tu es un agent libre à l'âge qu'il a, ben, il va signer pour à long terme. Ça va être un contrat à long terme. Là. Fait
ben
que,
oui.
Je sais qu'il signe, je sais pas moi, à Colorado, mais tu fais OK, ouais, le gars, pour les deux ou trois prochaines années, je suis pas inquiet qu'il va faire bien des points. Là, fait que ça va être intéressant.
Ouais, mais c'est comme un peu, tu regardes un gars comme Phil Kessel aussi, qui lui a été échangé en Arizona. Puis là, cette année, ben il a 21 points en 40 matchs. Lui, il a pas choisi son équipe là, il s'est fait échanger là puis ça va pas bien. Est-ce que Phil Kessel, ses belles années sont officiellement derrière lui à 32 ans ou c'est l'effet Arizona? Parce qu'en même temps, il est dans une équipe gagnante, les Coyotes gagnent des matchs.
T'sais. Ouais, non, exact, il gagne, dans un contexte gagnant puis il produit pas beaucoup. Bonne question, là, il s'en va sur une saison 40 points, mettons. Ce qui est très, très en deçà de ce qui nous a habitués dans les dernières années. Par contre, on avait parlé là, dans un épisode précédent, je pense que tout le monde s'attendait à une baisse de production, peut-être pas aussi drastique. Est-ce que c'est le début de la fin pour Kessel? Je pense pas, dans le sens que... On a vu bien des gars là, dans les dernières années avoir une saison off, puis après ça revenir, rebondir. Eric Staal, c'est un exemple. Fait que je pense qu'un gars comme Kessel, mettons qu'il finit, on va dire qu'il finit avec 45-50 points cette année, ben, d'après moi, il peut taper un 60 l'an prochain, tout ça. Tu sais, il y a encore, je pense, un 3 ans encore qui peut produire, là. Mais en même temps, tu sais. Ça dépend aussi si, de sa condition physique. Là. C'est sûr qu'on en a parlé un petit
peu. Là, tu as mentionné Eric Staal.
Ça peut faire mal vite, ça.
Ben, tu as mentionné Eric Staal. Très bel exemple, mais je ne comparerais jamais Eric Staal à Phil Kessel dans le sens qu'Eric Staal, il a 34-35 ans, mais c'est un gars qui m'a l'air quand même d'être très sérieux sur sa condition physique. Puis il a de l'air en shape, là, Eric Staal, tandis que Phil Kessel...
Son hygiène de vie n'a pas l'air au top, mettons, pour Kessel.
Ben, je dirais peut-être pas hygiène de vie, mais moi, j'ai eu la chance d'aller voir un match des Pingouins en finale de l'Est en 2016 que j'étais allé là. Puis c'est ça, c'est Pascal Dupuis. Puis Pascal m'avait invité à venir voir la pratique du matin, là, tu sais, le morning skate du matin. Puis j'avais eu la chance de voir Phil Kessel et aussi Sidney Crosby. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'était vraiment impressionnant. Là. Sidney Crosby qui est à un bras de distance de moi qui parle avec Pascal Dupuis. Tu sais, je veux dire, il y a des moments dans la vie comme ça où tu réalises l'ampleur de l'aura qu'ont certains joueurs d'hockey, puis c'est Sidney Crosby, là, je vivais de quoi, là? D'être à un bras de distance de Sidney, puis de le voir juste dans son environnement naturel, là, tu fais « wow ». En tant que joueur d'hockey, jouer avec Sidney, ça doit être spécial quand même, là. Mais tout ça pour dire que...
Je pense que c'est ça, des gars qui imposent le respect de même, qui ont du charisme autant, les autres joueurs aussi, je pense qu'ils sont impressionnés. Là. Lui, là, imagine là, quand toi, t'es là, puis tu le vois pas à chaque jour, là, hey, ben, ça doit être quelque chose. Belle expérience.
C'est sûr. Puis quelques minutes après, j'ai vu Phil Kessel. Disons que sans manquer de respect à Phil, il y avait moins l'aspect aura, il y avait plus l'aspect hot dog. C'est bizarre de voir ça parce qu'il est un peu. Il a l'air out of shape. T'sais. C'est pas du body shaming que je fais, mais le gars, il est un peu style, un peu grassouillet. Tu vois qu'il est pas fit. Puis c'est drôle parce qu'après la morning skate, l'équipe avait comme un buffet, tu sais, puis les gars en combine allaient se servir, puis tu sais, ils passaient devant nous autres avec leurs assiettes, tu sais. Puis Phil Kessel, c'était loadé une assiette de pâtes avec du pain, tu sais, il y avait... c'était vraiment comique, là. C'était vraiment frappant d'avoir... OK, wow, ce gars-là, il est
tailleur. Surtout, ce qui est drôle, c'est que... tout ce qu'on entend, ben, c'est ça que t'as vu. T'sais, c'est pas comme si des fois tu regardes les memes puis tu vois Kessel, la fameuse photo avec la coupe Stanley puis les hot dogs dedans. Là. Mais Colic, le gars, il est de même pour vrai. Là. C'est... toi, tu le vois pour la première fois dans...
Le gars, c'est un mangeur de hot dog.
Ouais,
en même temps, est-ce qu'il est à blâmer? T'sais, c'est bon des hot dogs, hein, Phil? T'sais, un bon stimé, là, ou même un
moutarde chou.
Moutarde chou. Un moutarde chou. Hey, ah ouais.
Puis j'ai appris dernièrement, là on divague solide, là, j'ai appris qu'un hot dog all dressed, tu mets pas de ketchup là-dedans. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Comment t'as appris ça, toi?
Ouais, j'ai appris ça comme il y a 3 mois, man. Je savais pas.
Tabarnak, moi je sais ça depuis que j'ai 4 ans, mais il y a jamais de ketchup là-dedans.
Moi j'ai grandi à Candiac, hein. C'est pas le genre de bouffe qu'on est habitué de manger, là, t'sais, c'est pas...
Ouais, moi j'ai grandi dans le centre-sud, donc...
c'est ça.
Ah non, moi je te dirais même je porte des jugements sur les gens qui commandent un all dress puis qui s'attendent à ce qu'il y ait du ketchup. Je suis comme, dude, man, ça fait pas partie du all dress, là.
Ah ouais, ben là à cette heure, ben c'est vrai que c'est bon, pas de ketchup, c'est vraiment... ouais, fait que non, je feel Kessel, je comprends.
Yes, fait que Phil Kessel, écoute, c'est ça. Puis sinon, ben il y a un certain Jonathan Huberdeau qui fait la pluie et le beau temps en Floride. Cette année, on parle pas d'Alexander Barkov comme les autres années, c'est Jonathan Huberdeau qui est la locomotive offensive de l'équipe. Et je suis très content pour lui parce qu'il mérite. Hein. L'année passée, 92 points. C'est un gars qui est dans l'ombre. Mais là, cette année, force est d'admettre qu'il a sa place en tabarouette dans la discussion.
53 points en 38 matchs. Il s'en va sur une saison de 105 points environ. Là. C'est même plus. Là. Un 110 points, c'est incroyable. Mais il est bon. Il est bon, ce gars-là. Là. C'est vrai, il est comme... Ça a pris un peu plus de temps, tout ça. Mais là, il a vraiment pris son air d'aller là, depuis l'an passé. Là. C'est un joueur complet. J'ai rien à dire contre ce gars-là. Là, pour vrai, là, c'est le full package. Là. C'est le fun.
Ben,
là,
c'est le full package. Puis il a juste 26 ans. T'sais, il est dans la ligue depuis longtemps quand même. Sa première saison en 2012-2013. On aurait l'impression que ce gars-là est un peu plus vieux, mais il a 26 ans. Fait que il arrive comme au
Il a l'air prime, vieux aussi de la farce. Il a tout le temps eu l'air vieux en plus. Là, puis, mais il a eu son 400e point à son 500e match. Déjà 500 matchs là, dans la ligue. C'est... ça passe vite quand tu regardes ces gars-là. Là, quand j'ai vu ça 500 matchs, j'ai collé que le temps passe vite. Pareil, parce que Huberdeau, il me semble, je me rappelais, il jouait à Saint-John, puis il dominait dans le junior, puis là, bang, 500 matchs déjà. Là, c'est impressionnant. En tout cas, bien content pour lui. Hein.
Ah, tout à fait. Il y a un autre joueur qui est surprenant cette année. On n'en parle pas beaucoup, mais Ryan Strome avec les Rangers de New York est en train de redynamiser sa carrière. Ça, c'était un high pick en 2011, si je ne me trompe pas. Ryan Strome, il avait été repêché par les Islanders. Puis il avait des belles promesses. Dans son cas, c'est le grand frère de Dylan Strome qui connaît des bons moments là, présentement avec Chicago. Mais il a été drafté 5e, lui, par les Islanders en 2011. Puis moi, je m'en souviens parce que je l'avais dans mon pool à un certain moment donné. Puis après sa saison de 50 points en 2014-2015, on dirait qu'il disait « Wow, ce gars-là, il peut peut-être partir ». Puis ça a comme déraillé, mais là, 35 points en 38 matchs avec les Rangers. Un certain, peut-être, Artemi Panarin lui fait du bien, mais Ryan Strome, qu'est-ce que tu en penses de lui? Est-ce que tu penses que c'est un coup de dé ou tu penses qu'il...
Eh bien, tu sais, si tu vois que le gars, il a eu des up and down de même, je partirais pas en peur avec lui, dans le sens où, tu sais, des fois, t'as des gars de même que... T'as des genres de joueurs, peu importe t'es mais où, ils vont produire pareil. T'as d'autres genres de joueurs que l'environnement va vraiment, vraiment, vraiment faire une différence sur la production. Puis là, il est tombé dans une équipe où il y avait certains trous à l'attaque. Puis, tu sais, on s'entend, s'il a été drafté aussi haut que ça, c'est parce qu'il y avait quand même des habiletés offensives... concrète là, dans le junior. Donc là, il fait juste met la confiance là-dedans aussi. T'as bien des gars qui rentrent dans la ligue puis dès qu'ils ont un rôle plus défensif, là, ils n'osent plus sortir leur offensive. Fait que, là, s'il était capable d'avoir une chaise un peu plus offensive avec les Rangers, ben là, il produit 35 en 38. C'est quand même bon. Là, il s'en va vraiment sur sa meilleure carrière, saison en carrière. Mais encore une fois, tu sais, je partirais pas en peur pour l'an prochain. Là. Je pense pas que c'est le genre de gars qui va. On se dit, ah, il est parti, puis là, il va augmenter là, dans les prochaines années. Là. Fait que. Je garde un petit gêne. Là, ouais. Pour,
moi, je suis d'accord avec toi, mais pour l'avoir quand même vu jouer beaucoup, parce que, tu sais, quand tu as un joueur dans ton pool, souvent, tu le regardes plus jouer, tout ça. Moi, je trouve que c'est un beau joueur, ouais, de hockey. Je trouve que c'est un bon joueur de hockey. Puis je pense que ce gars-là, c'est un offensif. C'est juste qu'il n'a jamais eu comme son breakout. Je pense pas qu'il va devenir un régulier du 80 points, là, mais je pense que ça pourrait devenir un gars qui fait des saisons de 60 points, disons, là, pour quelques années. Je pense que son nom pourrait finalement rentrer dans cette catégorie-là. Fait que, tu sais, je veux dire, quand même, d'avoir 35 points en 38 matchs, c'est faut le faire quand même dans la Ligue nationale. Après ça,
c'est rendu.
Ben oui, il joue quand même avec Panarin. Mais je veux dire, t'sais, pour jouer avec Panarin, il faut quand même de compléter les jeux de Panarin, t'sais, dans le sens où il est capable de faire. T'sais, s'il est là et il fait le travail, c'est qu'il fait le travail.
C'est ça. Si t'es là, c'est pas juste. Faut être là, hein, pour jouer avec les bons joueurs, parce qu'à un moment donné, si t'es pas bon, tu vas jouer avec les moins bons. Fait que c'est aussi simple que ça. Là. Faut que tu sois bon pour jouer avec les bons. Ça a toujours été le même, puis ça ne changera pas.
Puis si t'es bon, puis tu joues ça à 3 ou ça à 4, puis tu veux monter, ben faut que tu sois bon avec les moins bons. Fait qu'il n'y a pas de recette.
C'est ça.
Un autre qui me surprend cette année, puis qui en surprend plusieurs, parce qu'on s'attendait à. Ben pas on s'attendait, mais disons que sa carrière n'allait pas nécessairement dans la bonne direction, c'est un certain Anthony Duclair à Ottawa,
qui a comme
une saison qui sort vraiment des attentes. 21 buts en 40 matchs, 10 passes, 31 points. Tu sais, je veux dire, c'est pas à se taper, à se lancer ses murs, 31 points en 40 matchs, mais venant d'un gars comme lui, pour qui c'était vraiment une troisième puis une quatrième chance en Ligue nationale, là, parce qu'il a eu sa chance avec les Blackhawks, avec Blue Jackets.
Mais attends, je pense que c'est sa cinquième ou sixième équipe, je pense.
Toi, déjà, d'un côté pool un peu plus objectif, réaliste, est-ce que tu as repris confiance un peu dans Anthony Duclair?
Honnêtement, non. Je ne toucherai pas, moi aussi. L'an prochain, là, je ne toucherai pas. Trop énigmatique. Ouais. Je pense qu'entre ces deux oreilles, il y a des fils qui se touchent des fois. Puis ça m'a l'air d'être un gars qui est têtu un peu. Là,
c'est un joueur intriguant. C'est un joueur. Parce que, en même temps, c'est des gars de talent. C'est un gars qui est talentueux. Il y a quand même un.
Les habiletés sont là. C'est entre les deux oreilles, je pense.
C'est ça. Peut-être en terminant, parler de Piqué Subban. On a commencé à parler avec Taylor Hall qui a été échangé. Peut-être qu'un autre échange se dessine du côté des Devils. Piqué Subban qui connaît une saison désastreuse. Est-ce que on connaît tous Piqué Subban, évidemment, là, l'échange Weber-Subban. On ne veut pas revenir là-dessus. Mais Piqué Subban n'est quand même pas non plus un pied de céleri. C'est un défenseur qui a prouvé qu'il était offensif puis tout ça. Comment expliquer une saison si dégueulasse cette année? Puis est-ce que Piqué Subban est sur la pente descendante, finalement?
Ça, c'est une question que je pense qu'il mérite d'être posée. Parce que ça, tu peux pas descendre en dedans de 2 ans là, aussi rapidement que ça. Ça n'a pas de sens. À moins qu'il y ait une blessure qui a été cachée et qu'on sait pas, mais quand même, là, c'est une. Ça a juste pas de sens. Là. Puis on s'entend qu'il y a des gros dollars, là, lui-là. Il y a 9 millions par année. Puis pour un joueur
c'est
qui
incroyable.
A 5 points.
Je regarde ses statistiques.
6 points ou quelque chose.
Il y a 7 points. Il y a 7 points. Okay. 7 points en 38 matchs. Mais tu sais, 7 en 38, c'est roughly, c'est 15-16 points dans son année, là, s'il garde sa pace-là.
Ouais.
15 points pour Piqué Subban, c'est surréel. C'est comme si je te disais que non, c'est surréel.
Ouais.
C'est comme si je te disais que Nate Thompson faisait 90 points dans la Ligue nationale cette année.
Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un autre univers, là, c'est quoi? Ça marche pas.
Ah, oh, c'est incroyable. C'est très, très dur à expliquer. Bon, évidemment, les premières raisons qui viennent en tête, puis ça, du côté des Devils, puis du côté de la région de New York, il en parle beaucoup, c'est que on dirait que pour lui, tranquillement, ce qui se passe hors glace est devenu un petit peu plus important que ce qui se passe sur la glace, ouais. Finalement. Sa carrière est en péril, là, est en jeu. Peut-être pas en péril, mais sa carrière est en jeu.
Ah, c'est clair, là, c'est clair, parce que présentement, s'il est encore dans le line-up, c'est uniquement parce que qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, puis parce qu'il s'appelle Piqué Subban. Puis parce que son coach peut pas le mettre LT Scratch quand que le directeur général lui a donné 9 millions. Ça, fait que c'est vraiment bizarre qu'est-ce qui se passe avec lui, parce que les matchs que j'ai vus, là, c'est triste là, de le voir aller. Là. Un gars qui avait autant d'explosions, qui créait tellement de choses. Puis des fois, tu sais, c'était pas toujours bon parce qu'il créait des revirements, mais quand même, il essayait, puis tout ça, puis ça débouchait souvent sur des bonnes choses. Puis là, maintenant, il est même plus capable de faire ces choses-là. Il est lent. Son temps de réaction est lent. Il est vraiment plus l'ombre de lui-même. Oui, là, fait que...
Il y a de quoi être inquiet. Ben écoute, on termine là-dessus sur notre inquiétude pour Piqué, mais en même temps, on va dire chapeau à Marc Bergevin, hein, parce que là maintenant, rares sont ceux qui se vantent d'être des fans de Piqué Subban, puis qui reviennent sur le fait que cet échange-là, c'est un échange de marde. Maintenant, on en parle moins, mais c'est ça qui est triste. Hein. Maintenant, même les journalistes qui ont planté, on dirait qu'ils, sur le bout des lèvres, des fois, ils disent que finalement, Marc Bergevin a peut-être fait un bon travail, mais... Là, ça va sortir du cadre du pool, là, ce que je dis, mais moi, personnellement, je trouve que Marc Bergevin, c'est peut-être un... Peut-être... En fait, non, c'est pas peut-être. Selon moi, Marc Bergevin, c'est le meilleur DG qu'on a eu pour le Canadien depuis Serge Savard. Puis ça, je...
Ben,
je,
tu vois, je suis là-dessus, je l'ai toujours défendu, Bergevin. J'ai toujours aimé les moves qu'il faisait. On peut pas voir ça tout de suite parce qu'il y a tellement de parité dans la Ligue aussi, puis... Mais à date, les moves qu'ils font, pour vrai, si on prend dans une balance, là, les bons moves versus les mauvais moves, ben, y en a bien plus des bons moves que de mauvais. Là, fait que...
Puis, si tu regardes cette équipe-là, je vais regarder le line-up du Canadien là, pour te dire, regarde, tu regardes la première ligne, Tatar, Dano, Gallagher. Okay? Dano est allé le chercher, Tatar est allé le chercher. Après ça, Nick Suzuki sont allés le drafter. Max Domi, hein? on parlait de Galchenyuk.
Non, attends, wow, time out, Suzuki... Ils l'ont été le chercher avec Tatar dans l'échange de Pacioretty.
C'est vrai, ils l'ont pas repêché, ils sont allés le chercher. C'est vrai, ils sont allés le chercher avec l'échange de Tatar. Max Domi, c'est un échange... Encore une fois, quand il a échangé Galchenyuk, à quel point les journalistes, les gens, puis même les journalistes disaient « Tabarnak, ça n'a pas de bon sens d'échanger un marqueur de 30 buts contre un marqueur de 8 buts. » Là, tu dis « Non, avez-vous joué Max Domi? Savez-vous c'est qui Max Domi? Connaissez-vous Max Domi? » Là, tu sais, Max Domi, on le voit cette année, il connaît pas sa meilleure saison, mais Max Domi, je suis pas nerveux pour lui là, quand il va être là, il répond présent, ce gars-là.
Ben, attends une minute, t'as peut-être manqué le dernier match là, avec ton périple en moto, là, mais il joue du gros hockey. Là.
Oui, ben c'est ça que je dis.
Il joue bien, là.
Il est là, tu sais, je veux dire, c'est pas un gars qui va peut-être faire 90 points année après année, mais il est là, tu sais, he's part of the team, puis c'est une place importante. Puis après ça, ben tu regardes les additions après ça, ben tu sais, Jordan Wheels, Nick Cousins, c'est des pièces.
Ben, je te dirais que son autre gros échange, son autre gros blockbuster, c'est Drouin contre Sergachev.
Oui.
Que là, encore une fois, il est un peu comme Subban Weber, il est encore un petit peu trop tôt pour juger. Mais d'après moi, c'est un échange qui est bon pour les deux équipes parce que ça... On s'entend qu'on avait besoin d'un gars comme Drouin. Là. C'est encore le gars qui a le plus de skills dans cette équipe-là. Là.
On en a encore besoin. T'sais, dans le sens que Drouin, pour moi, c'est pas encore clair, Drouin, à quel point il a cimenté dans le corps de cette équipe-là. T'sais, je regarde Dano, Tatar, Gallagher, Domi, Arturi Lekkonen, on n'en parle pas, mais OK, ce gars-là, c'est pas une machine de points, là, mais je l'aime. Il apporte à l'équipe. Il est là, il a sa place. Puis c'est facile de chialer contre le Canadien. Tu sais, quand ils étaient dans leur séquence de 8 revers, puis tous les journalistes disaient qu'il fallait mettre Marc Bergevin, puis Claude Julien, puis faire un reset. Moi, je me dis, tabarnak, les gars, vous êtes payés, vous êtes vraiment payés, puis c'est ça votre travail dans la vie. Là. Tu sais, c'est comme si un médecin dit, hey, tu tousses, t'as de la fièvre, Chris, t'as le cancer. Tabarnak, calme-toi, man. Genre, t'es as-tu vu jouer comme faut? Le gars, il a jamais perdu son banc. L'équipe, il jouait pas comme une équipe. Il jouait comme une équipe qui était en 8 de revers consécutifs, mais pas comme une équipe qui était perdue. Là. Il y a 2 ans, quand ils ont drafté Kotkaniemi et qu'il avait fini vraiment dernier, là, tu regardais cette équipe-là jouer et tu disais, hey, il n'y a pas d'armes, il n'y a, a rien. Là. Cette équipe-là, ils n'ont pas de fun cette année. Ça, c'était clair. Mais dans la séquence de 8 revers de cette année, c'était pas ça. C'était juste une équipe qui en arrachait, qui avait des unlucky bounce. Puis ils sont passés au travers, puis les journalistes font ah, ouais, ok, c'est un mec. Moi,
non, c'est ça.
Mais ben, montée de l'air, excuse-moi, Phil, mais. Ouais.
C'est des brosses de marde, là, pour vrai. Là. Ils cherchent, ils veulent créer de quoi, là, quand ça va pas bien, puis ils veulent que ça brasse, tu sais. Fait qu'ils. Ah non, c'est des brosses de marde, là. C'est pas.
Mais je pense, malheureusement,
t'en as pas beaucoup qui sont justes, là.
Moi, je vais donner un gros shout-out à mon ami Bruno Gervais à RDS. Lui, je le trouve juste.
T'sais. Mais c'est un analyste, lui. C'est un analyste. T'sais, tous les anciens joueurs, c'est des analystes qui connaissent puis qui paniquent pas. Puis c'est pas. Parce que les journalistes, moi, quand je te parle de journalistes, là, c'est ceux qui ont pas joué à la game puis qui écrivent puis qui se mettent à. Ils se mettent à commenter sur des affaires. Ben ouais. Ils commentent pas sur la game comme telle. Ils commentent sur ce qui est autour de la game.
Ben oui.
Tu sais, fait pis ça, là, c'est ça qui arrive, c'est que eux autres, ils paniquent, c'est des fans, finalement. C'est des fans qui ont
une tribune. Ouais.
Fait que c'est juste. Fait que là, ils sont aussi maniaco-dépressifs pis bipolaires que la moyenne des fans.
Ben ouais.
Pis là, quand ça va bien, esti, c'est comme ça. Ah, let's go, c'est le party. Quand ça va pas bien, ben là, faut tout changer, faut tout échanger. Esti, Price, il a plus l'affaire là, il est fini. Julien, il a perdu sa chambre. Bergevin, il sait pas ce qu'il fait. C'est ça. Pis là, quand ça va bien, ben là, ah, ben là, crime, on devait. Ça devait le DJ de l'année. Esti, ah non, ça,
ben ouais.
Ça a aucun sens, là. C'est des bosses de marde, comme je disais.
Bon, ben écoute, au moins nous autres, Phil, on fait de notre mieux, puis on essaie d'être objectif, puis de parler de ça avec, avec les connaissances qu'on a. Fait que c'est ça qu'on vous offre. Ben, si vous aimez notre podcast.
Dame, je te souhaite.
Vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager, parlez-en à vos amis, le monde qui trippe hockey. On aimerait ça qu'on grossisse un peu notre nombre de followers. Fait que petit peu par petit peu, mais si vous avez du plaisir, n'hésitez pas à liker et partager. C'est bien apprécié.
Yeah, bon point. Puis Dan, en terminant, je te souhaite une super bonne année. Peu importe, tu vas la passer comment, tu vas la traverser comment, bonne année 2020 à toi. Puis tout ce que tu souhaites.
Hey, ben pareillement, mon Phil, bonne année 2020 à toi aussi. Santé, bonheur, toute la patente, les bons souhaits. Puis on se revoit de l'autre côté de l'année, finalement, pour un nouveau podcast.
Yes.
Fait que merci tout le monde pour votre écoute. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. On sait pas si c'est un podcast. Ça peut être n'importe quand. Puis à bientôt. Salut, Phil.